Un jour, un livre, un auteur, les sujets s'enchaînent, ils sont divers et variés.
Très variés.
Bonjour Philippe Benoît.
Divers et très variés. Bonjour Philippe Tubercast.
Et bonjour Diego Arabal.
Bonjour Diego Arabal.
Bonjour les deux Philippe. Alors aujourd'hui, on a un auteur où il va falloir faire un peu de spiritisme, je crois. Hein,
oui.
C'est ça ?
C'est la spécialité, écoutez, on le dit pour les auditeurs et les auditrices, de Philippe Tubercast, qui fait tourner les tables.
Et les serviettes. Ouais. Non, ah, les serviettes plutôt. Les tables un peu moins, les serviettes
les
pas
serviettes
mal.
À une certaine heure de la nuit, là.
Voilà, exactement. J'ai fait plus tourner de serviettes que de tables.
Bon, on va parler d'un grand journal américain. Imaginez, Philippe Tubercast, qu'un grand journal américain vous demande de raconter l'histoire de l'homme le plus extraordinaire que vous ayez jamais rencontré. De qui vous parleriez ? Alors, assurément, je pense de Diego Arabal.
Arabal, ça c'est clair.
De Diego Arabal ou de moi-même.
Oui.
Qu'est-ce que vous
oui.
avez
qui, moi, c'est que moi vous je parlerai de Philippe et Philippe
donc,
parlerait de moi.
Vous si ça ferait plusieurs tomes.
Alors, figurez-vous que cette demande, elle a été formulée dans le passé par le grand journal américain, le Reader's Digest, hein, qui est un grand journal américain, à un immense écrivain. Cet immense écrivain, ben, je vais ici parler de Jean Genet, l'auteur, tenez-vous bien quand même, de La femme du boulanger. Vous vous rappelez du film avec Rému, c'est de Jean Genet, Comme un joie demeure, film, livre extraordinaire, Les âmes fortes, et puis tant d'autres chefs-d'œuvre, on ne va pas les passer au crible. Lorsqu'il reçoit, donc Jean Genet, cette demande de ce grand média américain, voilà ce qu'il s'est passé, tel que c'est raconté dans la quatrième de couverture du roman de Jean Genet, L'homme qui plantait des arbres, aux éditions Gallimard. En 1953, le magazine américain The Reader's Digest demanda à Genet d'écrire quelques pages pour la rubrique bien connue du personnage le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré. Quelques jours plus tard, le texte tapé à la machine était expédié et la réponse ne se faisait pas attendre. Réponse satisfaite et chaleureuse, c'était tout à fait ce qui convenait. Quelques semaines passèrent et un beau jour, Genet descendit de son bureau. Son visage reflétait la stupéfaction. Il venait de recevoir une deuxième lettre du Reader's Digest. D'un ton bien différent de la première, on l'y traitait d'imposteur. Genet trouvait la situation cocasse, mais ce qui dominait en lui à l'époque, c'est la surprise qu'il puisse exister des gens assez sots pour demander à un écrivain, donc inventeur professionnel, quel était le personnage le plus extraordinaire qu'il ait rencontré et pour ne pas comprendre que ce personnage était forcément sorti de son imagination. C'est le thème de L'homme qui plantait les arbres. C'est un bouquin absolument extraordinaire. Est-ce que vous l'avez lu, Diego Arabal ?
Non, je ne l'ai pas lu.
Eh bien alors, je vous le recommande parce que c'est un roman, alors avec l'écriture prodigieuse de Jean Genet. On rappelle que Jean Genet était un écrivain provençal, comme Marcel Pagnol, comme Alphonse Daudet, enfin bon, comme tous ces écrivains provençaux qui effectivement donc, ont aimé la langue. Et c'est vrai que lorsqu'il a reçu cette deuxième lettre, c'est-à-dire lorsqu'ils ont compris en le lisant que l'homme qui plantait des arbres ne pouvait pas exister, ça a forcément été, ça a forcément effectivement produit un certain, on va dire,
remue-ménage.
Voilà, tout à fait. Donc l'homme qui plantait des arbres, en fait, est un personnage inventé par Genet. Et c'est vrai que lorsque le magazine The Reader's Digest comprend que cet homme qu'il a décrit est un homme qui n'existe pas, forcément le journal est très en colère. Et c'est clair que le propre d'un écrivain, quelque part, c'est pas de mentir. C'est d'inventer des personnages.
Tout à fait.
Et de revenir à ce que disait si joliment donc l'écrivain français Boris Vian, cette histoire est vraie parce que je l'ai inventée.
C'est joli ça quand même.
Voilà. C'est très joli comme expression. Vous connaissiez de Jean Genet, l'homme qui plantait des arbres ?
Non.
Donc, il écrit, alors je vais vous lire quelques passages, hein, parce que Jean Genet, c'est un écrivain provençal. Hein, je le disais à l'instant, comme...
Oui, d'ailleurs, la femme du boulanger, j'ai toujours cru que c'était Marcel Pagnol, oui, qui l'avait fait.
C'est Jean Genet. Alors, figurez-vous que beaucoup de gens pensent que c'est Marcel Pagnol.
Eh bien, oui. Parce qu'on est dans la lignée des Marius Fanny César, avec Marius, Rému. Donc, j'ai toujours cru que la femme du boulanger, c'était Marcel Pagnol.
Voilà.
Mais, voyez,
c'est de Jean Genet, voilà. Vous voyez, et donc, ce film, donc, mis en œuvre. Alors, c'est vrai que dans la gouaille qu'il y a à l'intérieur, on a l'impression que c'est la gouaille de Pagnol. Mais Jean Genet était aussi effectivement capable d'avoir cette gouaille. Alors, c'est un livre, Un homme qui plantait des arbres, là, donc édité par Gallimard. C'est un petit livre, hein, vous voyez, qui est vraiment pas long, qui fait une trentaine de pages. Mais il est écrit avec cette verve de Jean Giono, et je vais vous lire quelques passages. Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part et qu'au surplus elle ait laissé sur le monde des marques visibles, on est alors, sans risque d'erreur, devant un caractère inoubliable. Voilà comment Jean Giono présente dans L'homme qui plantait des arbres, dans cette histoire que le Reader's Digest pensait vraie. Donc, ce sont les premières lignes que le Reader's Digest va lire. Et à la fin de l'histoire, forcément, ils comprennent que ce personnage n'a pas pu exister. Mais quand on le lit, on peut se dire malgré tout que ce personnage existe. Il y a environ, je reprends la lecture, une quarantaine d'années, je faisais de longues courses à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. Cette région est délimitée au sud-est et au sud par le cours moyen de la Durance, entre Sisteron et Mirabeau, au nord par le cours supérieur de la Drôme, depuis sa source jusqu'à Dié, à l'ouest par les plaines du Comtat vénétien et les contreforts du Mont Ventoux. Elle comprend toute la partie nord du département des Basses-Alpes, le sud de la Drôme et une petite enclave du Vaucluse. C'était au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts, des landes nues et monotones, vers 1200 à 1300 mètres d'altitude. Il n'y poussait que des lavandes sauvages. Je traversais ce pays, dans sa plus grande largeur, et après 3 jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campais à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille, et il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, quoique en ruine, comme un vieux nid de guêpes, me firent penser qu'il y avait dû y avoir là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les 5 à 6 maisons sans toiture, rongées de vent et de pluie, la petite chapelle au clocher écroulé, étaient rangées comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants, mais toute vie avait disparu. C'était un beau jour de juin, avec grand soleil, mais sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ses grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. À 5 heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire, debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons couchés sur la terre brûlante se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde et un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie dans une ondulation du plateau. Il tirait son eau, excellente, d'un trou naturel très profond au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu, c'est le fait des solitaires. Mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite, dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas une cabane, mais une vraie maison en pierre, où on l'envoyait très bien comme son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvée là à son arrivée. Son toit était solide et étanche. Le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages. Son ménage était en ordre, sa vaisselle lavée, son parquet balayé, son fusil graissé, sa soupe bouillée sur le feu. Je remarquai alors qu'il était aussi rasé de frais, que tous ses boutons étaient solidement cousus, que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa soupe, et comme après je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux comme lui, était bienveillant, sans bassesse. il avait été entendu tout de suite que je passerais la nuit là. Le village le plus proche était encore à plus d'une journée et demie de marche. Et au surplus, je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Il y en a 4 ou 5 dispersés loin les uns des autres, sur les flancs de ces hauteurs, dans les taillis de chêne blanc, à la toute extrémité des routes carrossables. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois. Ce sont des endroits où l'on vit mal. Les familles, serrées les unes contre les autres dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver, exaspèrent leur égoïsme en vase clos. L'ambition irraisonnée s'y démesure, dans le désir continu de s'échapper de cet endroit. Les hommes vont porter leur charbon à la ville avec leur camion puis retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle douche écossaise. Les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence surtout, aussi bien pour la vente des charbons que pour le banc à l'église. Pour les ventes, pour les vertus qui se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux et pour la mêlée générale des vices et des vertus sans repos. Par là-dessus, le vent également sans repos irrite les nerfs. Il y a des épidémies de suicide et de nombreux cas de folie, presque toujours meurtrières. Le berger qui ne fumait pas alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner un après l'autre, avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Je fumais ma pipe. Je me proposais pour l'aider. Il me dit que c'était son affaire. En effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistais pas. Ce fut toute notre conversation. Quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros, il les compta par paquets de 10. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui, sanglant parfait, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher. La société de cet homme donnait la paix. Je lui demandai, le lendemain, la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le trouva tout naturel. Ou plus exactement, il me donna l'impression que rien ne pouvait le déranger. Ce repos ne m'était pas absolument obligatoire, mais j'étais intrigué et je voulais en savoir plus. Il fit sortir son troupeau et le mena à la pâture. Avant de partir, il trempa dans un seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands soigneusement choisis et comptés. Je remarquai qu'en guise de bâton, il emportait une tringle de fer grosse comme le pouce et longue d'environ 1,50 m. Je fis celui qui se promène en se reposant et je suivis une route parallèle à la sienne. La pâture de ses bêtes était dans un fond de combe. Il laissa le petit troupeau à la garde du chien et il monta vers l'endroit où je me tenais. J'eus peur qu'il vînt pour me reprocher mon indiscrétion, mais pas du tout. C'était sa route et il m'invita à l'accompagner si je n'avais rien de mieux à faire. Il allait à 200 mètres de là sur la hauteur. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland. Puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandai si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était? Il ne savait pas. Il supposait que c'était une terre communale, ou peut-être était-elle la propriété de gens qui ne s'en souciaient pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il plantait ainsi ses sanglants avec un soin extrême. Après le repas de midi, il recommença à trier sa semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions puisqu'il y répondit. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur les 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur ces 20 000, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allait pousser de cet endroit où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de l'homme. Il avait visiblement plus de 50 ans. 55, me dit-il. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il y avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique, puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourrait par manque d'arbres. Il ajouta que n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Menant moi-même à ce moment-là, malgré mon jeune âge, une vie solitaire, je savais toucher avec délicatesse aux âmes des solitaires. Cependant, je commis une faute. Mon jeune âge, précisément, me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine recherche du bonheur. Je lui dis que dans 30 ans, ces 10 000 chênes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que si Dieu lui prêtait vie, dans 30 ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces 10 000 seraient comme une goutte d'eau dans la mer. Il étudiait déjà d'ailleurs la reproduction des hêtres. Il en avait près de sa maison une pépinière issue des faines. Les sujets qu'il avait protégés de ses moutons par une barrière en grillage étaient de toute beauté. Il pensait également à des bouleaux pour les fonds, où, me dit-il, une certaine humidité dormait à quelques mètres de la surface du sol. Nous nous séparâmes le lendemain. L'année d'après eut lieu la guerre de 14, dans laquelle je fus engagé pendant 5 ans. Un soldat d'infanterie ne pouvait guère y réfléchir à des arbres. À dire le vrai, la chose même n'avait pas marqué en moi. Je l'avais considéré comme un dada, une collection de timbres et oubliés. Sorti de la guerre, je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation minuscule, mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est sans idée préconçue, sauf celle-là, que je repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'ai aperçu dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais mis à penser à ce berger planteur d'arbres. 10 000 chênes, me disais-je, occupent maintenant un très large espace. J'avais vu mourir trop de monde pendant ces 5 ans, pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéar Bouffier. Et d'autant que, lorsqu'on en a 20, on considère les hommes de 50 ans comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort. Il était même fort vert. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que 4 brebis, mais par contre 100 de vaches. Il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ses plantations d'arbres. Car, me dit-il, et je le constatais, il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi. Et que lui. Voilà.
Alors, on n'est pas sur C8, c'est pas la nuit, on n'écoute pas.
Si vous voulez vous endormir, écoutez Radio Présence, non, Philippe Audonny.
Pourquoi vous avez voulu nous parler de ce livre, Philippe?
Alors, parce que quand je l'ai lu,
c'est un auteur connu qui n'a pas forcément besoin de...
Alors, il est peu connu, le livre, L'homme qui plantait les arbres.
Oui.
C'est-à-dire, on connaît les autres romans que je vous ai cités tout à l'heure. Celui-là, je l'ai découvert tout à fait par hasard dans la très belle librairie qu'il y a à Nailles. Une très belle librairie à Nailles ici que j'ai découvert tout à fait par hasard en allant visiter donc le musée du Béret avec mon épouse. Et il y a également un très beau musée qui est un musée d'art contemporain. Et dans la librairie, je tombe sur ce livre. Je le prends, la libraire me dit: vous avez pris quoi? Ben, je lui dis: je le connaissais pas. Ah, elle me dit: excellent choix. Je lui dis: vous l'avez lu? Ah, elle me dit: oui. Elle me dit: c'est un roman qui se lit à voix haute.
C'est ce que vous avez fait d'ailleurs.
C'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que quand je l'ai lu, j'entendais ma voix intérieurement. Je me disais: mais c'est un roman qu'il faut faire passer à présence et lire à voix haute. On le fait rarement.
Ah oui.
Mais vous voyez, c'est un exercice.
Tiens, une question à tous les deux là. Diego et Philippe, vous avez lu le livre à voix haute, c'est-à-dire avec un débit lent pour bien sûr le vivre et le jouer.
Et pour l'imager, et voilà, tout à fait.
Quand vous lisez, vous, les romans, parce que je sais que vous lisez beaucoup, puis en plus vous avez une maison d'édition, donc il fallait lire les livres à grande vitesse. On n'a pas le même débit quand vous lisez. Vous lisez beaucoup plus vite. Comment ça se passe entre la lecture que vous avez
et
la lecture à bas débit lorsqu'on le lit à quelqu'un?
C'est-à-dire, je pense que tous les livres ne sont pas écrits pour être lus à voix haute.
Ouais.
Je suis complètement d'accord avec ça.
Il y a des livres, je veux dire, les lire à voix haute ou les lire à l'interne, hein, dans son esprit, ça ne change rien. Mais il y a des livres où, quand on les ouvre, on se dit: celui-là, il faut que je le lise, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire le lire à voix haute pour moi-même.
D'accord. Et,
mais il y a des livres comme ça où c'est important de pouvoir lire ce qui est écrit parce qu'il y a une, tout simplement parce qu'il y a une forme dans l'écriture qui donne un rythme, qui va donner une fluidité ou non au récit et qui fait que là, ben, on est plutôt sur quelque chose à lire à voix haute. Mais c'est souvent d'ailleurs des bouquins relativement courts.
Oui. Tout à fait.
Parce que un roman court ou un livre court, il est écrit en prenant soin du rythme, ce qui n'est pas le cas pour un roman plus long où on est sur une histoire, où on va la développer, où il y a plein de personnages, etc. Et où la lecture à voix haute, c'est intéressant pour que quelqu'un connaisse, pour que quelqu'un puisse avoir une idée de ce qui est dit et puis donner une idée du rythme de l'auteur, mais ça ne change pas grand-chose. Alors effectivement, quand moi je lis, quand je lis des tapuscrits, puisque je fais partie d'un comité de lecture, je lis vite. Hein, quand je lis des romans, je veux dire, un roman comme celui-ci, là, donc, qui fait 380 pages, il me faut une journée complète. Quoi. Je commence le matin à 8 heures, je termine le lendemain à 2 heures du matin. Quoi. Mais c'est vrai que je suis retraité, donc j'ai le temps de lire. Mais je lis vite, oui, effectivement. 350 pages en 10 heures, c'est beaucoup.
Ouais.
Y a des moments où je m'arrête, parce qu'il y a des passages qui m'interpellent, il y a des passages qui me semblent plus intéressants.
Ça vous arrive, avec votre connaissance, le nombre de livres, de revenir en arrière, parce que vous êtes évadé ou vous n'avez pas compris, de revenir en arrière, ou c'est rare, vous avez
Je dirais que sur un tapuscrit, quand je reviens en arrière, généralement, c'est pas bon
c'est pas
signe.
Clair. Ouais.
Sur des livres déjà publiés, ça peut arriver. Mais parce que c'est un sujet qui ne me captive pas.
D'accord.
Et donc,
vous êtes évadé ?
Mon esprit est parti ailleurs, et donc d'accord. Je reviens. Sinon, non. Je veux dire, en règle générale, quand je lis un roman, généralement du polar, mais pas que, quand je lis un roman, j'essaye de le lire d'une traite pour ne pas sortir.
Et puis quand on n'arrive pas à le lire d'une traite, c'est que bon, le roman n'est pas bon.
Alors, ou qu'on n'a pas le temps de le faire aussi.
Ou qu'on n'a pas le temps de le faire. Alors après, par rapport à votre question, Philippe Subercase, on va remettre le contexte, parce que je pense que là, il est important, même si Jean Giono, il a une écriture qui est absolument extraordinaire. Bon, je rappelle, Un homme qui plantait des arbres, donc le livre là que j'ai lu chez Gallimard, c'est une commande.
C'est une commande de...
C'est une commande du Reader's Digest.
D'accord.
C'est-à-dire... Enfin, en tout cas, Jean Giono le prend comme une commande. Le Reader's Digest lui demande de, donc comme je le disais tout à l'heure dans la quatrième de couvre, d'écrire l'histoire sur, de leur faire, de leur raconter l'histoire de l'homme le plus extraordinaire qu'il a connu, mais dans le réel.
Et c'est là où ils ont pas apprécié que ce soit un être imagé.
Ben, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que lui, il prend ça quelque part comme une commande. Mmh. Cet homme extraordinaire, il va l'inventer. Et à un moment donné, quand on le lit en ayant à l'esprit cette commande, qui pour le Reader's Digest n'est pas une commande, c'est juste racontez-nous, c'est pas une commande d'un livre. Mais Jean Giono, d'un seul coup, de par le fait que c'est un créatif, comme Diego Aral ou moi quand on écrit un roman, prend la liberté de dire je vais créer un personnage. Mmh. Et donc, première lettre qu'il reçoit du Reader's Digest, il le remercie. Et puis, quelques jours plus tard, il reçoit une deuxième lettre du Reader's Digest qui le traite d'imposteur. Parce qu'ils comprennent, en lisant cette histoire, qu'elle est fausse.
D'accord.
Que cet homme n'a pas pu exister, qu'il n'a pas pu planter des milliers d'arbres. Mmh. Mais pourtant, quand on la lit, on se dit, oui, ça peut exister. Et donc, le rythme avec lequel il l'écrit est un rythme qui est le rythme d'un conteur.
Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire.
Mmh. Voilà. Ce n'est pas le rythme d'un roman, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on peut lire vite. C'est-à-dire que là, c'est écrit dans une langue où vous allez apprécier les mots. Vous allez les goûter. C'est un peu, je vais essayer de comparer ça à un plat. C'est comme si avant de goûter un plat, vous alliez le sentir pour avoir le plaisir de l'olfactif, le plaisir de la mastication, donc de la consistance qu'il va y avoir, et le plaisir du goût. Mmh. Lui, à un moment donné, il est capable d'arriver à faire apprécier la musicalité des mots. Mmh. C'est-à-dire que les mots qu'il choisit ne sont pas choisis au hasard. Mmh. Ils sont choisis pour que les phrases aient une musicalité particulière. C'est-à-dire que je ne peux pas lire ça vite.
Vous voyez, le contexte... On n'est pas en mot à mot. Non. Voilà, c'est ce que vous voulez dire.
Oui, voilà, tout à fait.
Parce que le mot à mot ne correspondrait peut-être pas.
Ne correspondrait pas. Dire je parle anglais comme une vache espagnole. Je me rappelle la première fois quand j'avais été en stage linguistique en Angleterre où je sortis ça en anglais. Il m'a regardé. Et puis c'est là où j'ai compris que
il fallait trouver
autre chose. Quoi. Non mais c'est très bien parce que là on s'en rend compte.
Allez, on va terminer cette chronique.
Allez, l'homme qui plantait des arbres, voilà. De Jean-Giono chez Gallimard. Je vous le recommande, très beau livre que vous pouvez lire à un moment donné au coin du feu, vraiment. Là, à cette époque aussi de l'année, parce que avec le feu qui pétouille, le crépitement. C'est
bon, et puis si vous ne l'avez pas, vous mettez une application sur YouTube, voilà, et puis il y a des
photos.
30 pages.
Mais voyez, quand alors vous posez la question de savoir si moi je reviens par moment sur une phrase, je reviens toujours sur des phrases qui sont très belles. Je les lis 3, 4, 5 fois, et voire par moment, ça m'arrive de les lire à voix haute, tellement je trouve qu'elles sont extraordinaires. Et je ne sais pas si Diego Arrabal le fait, moi je dors toujours, j'ai toujours des livres à côté de moi dans la nuit, parce que ça m'arrive dans la nuit de me réveiller, je peux faire un cauchemar. Et j'aime bien lire des mots qui sont beaux. Parce que les mots des auteurs, voilà, c'est quelque chose de très rassurant, je trouve, dans la nuit, dans l'obscurité. Et l'homme qui plantait des arbres, ça peut vraiment être un roman que vous gardez à votre chevet pendant des années.
J'espère que vous allumez pour lire, quand même.
Ah oui.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.